France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. L'une des entrées du marché de Rungis au sud de Paris est bloquée ce matin par 200 à 300 manifestants. C'est le début de l'appel à la grève lancé ce mardi par la CGT. Elle réclame une hausse des salaires et une justice fiscale. La journée pourrait donc être perturbée, notamment dans les transports, les écoles ou encore dans les services publics. Certains gilets jaunes vont rejoindre le mouvement. Solidaire, certaines branches de Force ouvrière et la France insoumise appellent également à la mobilisation. Il enchaîne les débats et passe du temps sur le terrain. Emmanuel Macron était hier en région parisienne, dans l'Essonne, à Évry-Courcouronnes. Le chef de l'État y a annoncé un grand plan pour les petites associations pour, dit-il, compenser la suppression des contrats aidés. Retrouvant des accès de sa campagne électorale, Emmanuel Macron a balayé de nombreux sujets, préférant par exemple l'accès à la citoyenneté pour les étrangers plutôt que le droit de vote. Tout cela était dans le cadre du grand débat national. Le chef de l'État qui avait annoncé en fin d'année dernière une nouvelle version pour la prime d'activité, revalorisée à 90 euros pour les bénéficiaires du SMIC, eh bien cette prime d'activité est versée aujourd'hui. Elle va concerner 7000 nouveaux bénéficiaires. Ils se sont inscrits auprès de la caisse d'allocation familiale. Il ne s'agissait au départ que d'une mise en danger de la vie d'autrui. L'enquête sur le lévothyrox a finalement été élargie à homicide involontaire fin novembre. C'est ce qu'annonçait hier le parquet de Marseille. La décision a été prise après le décès d'une femme. À l'heure actuelle, des milliers de malades demandent au laboratoire Merck de revenir sur la nouvelle formule du médicament. Dans l'actualité ce mardi matin, notons encore la mission de l'émissaire des États-Unis en Corée du Nord. Le négociateur américain doit s'y rendre pour préparer le prochain sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Une deuxième rencontre entre les deux hommes qui est prévue à la fin du mois. Et puis au Venezuela, Nicolas Maduro semble de plus en plus isolé. Le groupe de Lima qui réunit le Canada ainsi que 14 pays latino-américains, ce groupe demande à l'armée vénézuélienne de se ranger derrière l'opposant Juan Guaido.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs ». Participation, représentation, information, hashtag le nouvel âge de la politique, algorithmes et démocratie, fake news, concertation, philosophie des réseaux sociaux. Quatre tables rondes animées par les producteurs de France Culture pour comprendre le monde d'aujourd'hui. En partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Venez nombreux, mardi 19 février dès 9h30 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
Envie d'un réveil en douceur ce matin, ça tombe bien, vous êtes sur France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver ce matin. Cette année, on va fêter en France et à l'étranger les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Et à cette occasion, les Beaux-Arts de Paris vont exposer quelques dessins de Léonard de Vinci, quatre dessins de Léonard de Vinci et d'autres dessins de ses contemporains, des plus prestigieux, comme Raphaël par exemple. Léonard de Vinci et la Renaissance italienne, c'est au cabinet de dessin Jean Benat jusqu'au 19 avril.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Emmanuel Brugerolles. Vous êtes conservateur général du patrimoine, responsable de la collection de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, une collection d'ailleurs riche de plus de 60 000 dessins dans 25 000 dessins de maîtres, et vous exposez pour la première fois chez vous 30 dessins pour marquer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Alors il y a 3 dessins du maître, je crois, et les autres, ce sont des dessins de ses contemporains. Donc parmi eux, les illustres Raphaël, je l'ai dit, mais aussi Gozzoli ou Lippi. Ces dessins, pour la plupart, ce sont des études préparatoires pour des toiles ou pour des sculptures.
Alors tout d'abord, je voudrais redire un petit mot par rapport à ce choix de dessin pour rappeler que tous ces dessins sont conservés à l'École des Beaux-Arts, puisque nous avons, après le Musée du Louvre, la plus belle collection de dessins de France. Et nous y conservons en effet plus de 25 000 dessins de maîtres, et la partie italienne est conséquente, puisqu'en effet, nous présentons cette fois-ci 30 dessins de la fin du 15e au tout début 16e, Et parmi ces dessins, il y a en effet 4 dessins de Léonard de Vinci. Justement, nous avons choisi de présenter cet ensemble parce que il permet de bien appréhender comment se passe la pratique du dessin au sein des ateliers à la fin du 15e et au début du 16e en Italie. Donc comment les artistes travaillent, comment ces jeunes artistes qui ont parfois 16, 17 ans arrivent dans l'atelier du maître, comment ils vont être formés petit à petit, comment ils sont formés à travers le dessin et ensuite comment ils vont préparer leurs œuvres, sculptures ou peintures.
Alors s'il fallait parler des dessins de Léonard de Vinci.
Alors s'il fallait parler des dessins de Léonard de Vinci, nous en avons 4 et ils sont particulièrement intéressants parce qu'ils nous permettent de percevoir la diversité de son approche. On a notamment un premier dessin qui est un dessin qui présente différentes figures à la plume encre brune et qui sont des premières pensées pour un tableau qu'il a réalisé à Florence en 1482, qui est une adoration des mages. Et vous avez là ces figures qui sont saisies en plein mouvement, dans des attitudes multiples, et qui sont vraiment plein de vigueur. Vous avez aussi 2 études de têtes de vieillards, qui sont en effet des recherches que Léonard a menées pratiquement toute sa vie, mais particulièrement là, on est autour de 1485-1490, et on voit qu'il est absolument sans concession par rapport à ce visage. Vous avez notamment une tête de vieillard où vous avez les joues tombantes, la bouche serrée, les plis sur le front et le crâne chauve. Donc il se tend de saisir cette physionomie. Et évidemment, il y a cette philosophie sur la fuite du temps. Et enfin, vous avez un dessin qui est sans doute le chef-d'œuvre de l'exposition, qui représente des études de balistique, c'est-à-dire des projets pour des armures et des armes, puisque Léonard va être appelé en 1482 par Ludovic le Mort à Milan, non pas en tant que peintre, mais en tant qu'ingénieur.
Ingénieur, oui, parce qu'on a du coup le Léonard de Vinci, ingénieur, peintre.
Et puis des recherches sur l'homme, en fait, avec ses études de vieillard. C'est vraiment une réflexion sur l'homme que Léonard a menée toute sa vie.
Est-ce qu'on connaît l'histoire de tous ces dessins?
Bien sûr, on connaît leur provenance, notamment l'étude de balistique a appartenu au XVIIe siècle et fin XVIIe à Sir Thomas Lawrence, qui était un peintre anglais, qui était un grand collectionneur et qui a eu ce dessin entre ses mains. Ensuite, il a appartenu à un collectionneur français du XVIIIe siècle qui s'appelle Pierre-Jean Mariette, qui a collectionné plus de 6000 dessins. Et ce dessin faisait partie de ses chefs-d'œuvre. Et enfin, il arrive chez nous en 1908. Et pourquoi arrive-t-il à l'École des Beaux-Arts? Parce que les collectionneurs et les amateurs du XIXe siècle et du début du XXe avait une très haute idée de l'école. C'était un lieu où il se déroulait toutes les grandes expositions. C'était le grand palais de l'époque. Et ils ont souhaité donner leur chef-d'œuvre dans un but pédagogique, afin que les élèves de l'école puissent se nourrir des grands maîtres et les étudier.
En ce qui concerne les 3 autres dessins de Léonard de Vinci?
Pour 2 autres d'entre eux, ils proviennent également de cette donation faite en 1908. Et pour le 4e, il a été collectionné par un artiste qui s'appelle Édouard Gâteau, qui était donc un médailleur, graveur, qui a terminé à l'Institut, et qui avait une très belle collection de dessins et de gravures. Bien malheureusement, il habitait rue de Lille, et en 1870, rue de Lille, il y a eu un incendie important suite à la Commune, et donc une partie de sa collection a brûlé. Mais Dieu merci, en 1883, il nous lègue sa collection et nous avons un très bel ensemble de dessins qui proviennent de chez lui.
Ces 4 dessins de Léonard de Vinci qu'on peut voir, donc puisqu'ils sont exposés jusqu'au 19 avril au cabinet des dessins Jean Bonnat chez vous, aux Beaux-Arts de Paris, est-ce qu'on peut dire que c'est les seuls dessins de Léonard de Vinci que vous avez, que vous conservez?
Nous conservons 4 dessins de Léonard, ce qui est déjà pas mal pour une collection publique française. Bien sûr, le Louvre en a plus d'une vingtaine et va les montrer cet automne puisqu'elle organise une très grande rétrospective sur l'artiste. L'Institut a aussi de très beaux carnets, des carnets extraordinaires où on voit tous les talents de génie en tant que mathématicien, poète, artiste et ingénieur de Léonard, mais c'est à la fois des croquis et des textes. Mais enfin, nous, on est quand même très heureux d'avoir ces 4 Léonards, ce n'est pas rien.
Emmanuel Brugerol, est-ce qu'on peut dire que vous avez profité de cette occasion, c'est-à-dire la commémoration des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, pour bien sûr montrer les dessins de votre collection, mais aussi pour montrer les dessins qui résumeraient l'ambiance, l'effervescence de son école, de la Renaissance italienne, puisqu'il y a d'autres dessins de d'autres maîtres qui sont exposés.
Bien sûr, c'était l'occasion, hein. J'ai saisi cette année 2019 pour organiser cette exposition qui prend du temps parce qu'il faut revoir les dessins, revoir les attributions. Ça te prend du temps d'organiser, même s'il n'y a que 30 dessins, des dessins aussi prestigieux. Donc en effet, il y a des œuvres d'artistes qui sont contemporains de Léonard, qui ont parfois séjourné dans le même atelier qui est celui de Verrocchio, hein. Léonard va aller dans l'atelier de Verrocchio. Et vous avez par exemple deux feuilles de Francesco Di Simone qui sont des études réalisées par ce jeune artiste qui essaye de s'approprier les motifs de son maître en étudiant des têtes, en étudiant des éléments architecturaux et des figures. Mais vous avez aussi des artistes comme Filippino Lippi, très proche de Botticelli, qui a représenté des figures pour en saisir l'attitude et aussi la pose du drapé. Hein, le drapé occupe une place très importante dans cette approche et cette formation à la fin du XVe siècle. Et enfin, vous avez une technique, si vous allez voir l'exposition, que vous découvrirez et qui va énormément vous séduire, qui est la pointe de métal sur papier préparé, qui est une des caractéristiques de ces artistes de la fin du XVe à Florence, qui va s'arrêter vraiment au début du XVIe, puisque c'est la sanguine qui ensuite va être beaucoup utilisée, cette pierre rouge que Michel-Ange, que Sarteau ou que Pontormo vont adopter. Mais cette technique de pointe d'argent sur papier préparé vous permet de donner un dessin extrêmement coloré par ces papiers qui peuvent être rose, vert, bleu, dont vous êtes vraiment pris par la beauté de ces feuilles.
Et ça résiste au temps ?
Oui, nos œuvres sont très bien conservées. Bon. Parce qu'ils ont été peu exposés, donc profitez de l'occasion pour venir les voir, et ils sont en très bon état.
Et puis, il y a d'autres maîtres, vous venez de nous le dire d'ailleurs, Emmanuel Brugerolles, Raphaël par exemple.
Alors nous avons trois feuilles de Raphaël. La plus belle évidemment concerne une feuille qui est dessinée recto et verso, c'est-à-dire que Raphaël a utilisé les deux faces de son papier. Sur l'une des faces, il représente une étude pour une Madone, où il mène ses recherches sur le geste de l'enfant plein d'affection vers la Madone. Et au verso, vous avez de nouveau ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce papier préparé, légèrement rosé, où il a dessiné à la fois une étude de draperie, où là on voit bien ses liens avec Léonard, puisque Léonard a mené aussi énormément de recherches sur les draperies, et puis un profil d'homme.
Voilà, une tête d'homme, ouais.
Où là on sent qu'il n'a pas cherché à idéaliser ce visage, qui est déjà légèrement ridé et concentré sur ses pensées.
Et est-ce que ça renvoie à des œuvres connues de Raphaël, à ses études préparatoires ?
Oui, pour ce dessin, ça renvoie à des peintures religieuses qu'il a réalisées autour de 1508, c'est-à-dire avant de partir pour Rome. Il est encore à Florence à ce moment-là.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Léonard de Vinci et la Renaissance italienne, 30 dessins de la collection des Beaux-Arts de Paris exposés jusqu'au 19 avril au cabinet des dessins Jean Bonnard. Et nous sommes avec Emmanuel Brugerolles. Vous êtes, je le rappelle, conservateur général du patrimoine. Vous êtes d'ailleurs la responsable de la collection à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Alors, de cette collection de dessins, bien sûr. On a parlé des quatre dessins de Léonard de Vinci, qui est tout à la fois le prétexte pour vous, pour parler de toute la Renaissance italienne et pour montrer ces quelques trésors. Comment on déambule dans cette exposition?
Alors tout d'abord, on est accueilli par une petite anecdote qui rappelle les liens que nous avons entre Léonard et l'École des Beaux-Arts. Il faut savoir que quand...
Vous l'appelez Léonard.
Tout d'abord, quand vous savez que la Joconde est volée.
Et vous avez joué un rôle primordial dans cette affaire.
On a joué un joli rôle, ouais. C'est-à-dire qu'on la retrouve à Florence en 1913. Et à ce moment-là, évidemment, la France veut la rapatrier au plus vite. Donc la Joconde prend le train. Et elle arrive le 31 décembre au petit matin à la gare d'Austerlitz.
Quelle année ?
1913.
Ouais.
Elle est accueillie par des personnalités masculines qui l'emmènent tout de suite à l'École des Beaux-Arts, où là, le directeur de l'époque, qui était Léon Bonnard, un célèbre portraitiste, l'authentifie, la replace dans son cadre, puisque le voleur avait emporté la Joconde dans son cadre. Et puis, il est décidé que la Joconde sera exposée pendant 2 jours à l'École des Beaux-Arts.
Pour fêter l'événement.
Pour fêter l'événement et pour que le public parisien se réapproprie cette héroïne, leur héroïne. Et donc, en effet, les Parisiens vont venir admirer cette Joconde pendant 2 jours. Et après, bien sûr, elle repasse la scène et est replacée au musée du Louvre. Mais cette anecdote était importante d'être mentionnée, puisque c'est ce lien aussi qui nous lie entre Léonard et l'École des Beaux-Arts. Sinon, quand vous arrivez dans cet espace, c'est un espace qui accueille des dessins. Donc, ce sont des œuvres de petit format. Donc nous avons fait une scénographie extrêmement raffinée avec des couleurs qui sont dans les verts pâles, avec des montages aussi qui ne sont pas des montages standards, mais nous avons mis des couleurs aussi en harmonie avec ces papiers préparés que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons aussi choisi de montrer au public que les dessins peuvent être dessinés des deux faces. Donc vous avez 7 dessins qui sont présentés recto verso, ce qui vous permet de comprendre comment un artiste travaille. Parfois on tourne sa feuille et puis on refait un dessin derrière. Donc ça aussi. Et puis il y a un appareil pédagogique qui accompagne chaque dessin avec des cartels, avec des commentaires, replaçant l'œuvre dans son contexte de création.
Et l'ordre des dessins, j'allais dire l'ordre d'apparition de ces œuvres dans notre déambulation, dans cette exposition, Emmanuel Brugerolles, comment ça a
elle
été
Elle est légèrement chronologique, bien sûr. La chronologie soit resserrée, mais elle est quand même légèrement chronologique, puisqu'on commence avec un dessin de 1450 et qu'on va terminer avec des dessins du début du XVIe.
Pour arriver à ce choix de 30 dessins avec un sujet bien particulier quand même, hein, autour de Léonard de Vinci, il s'agissait bien sûr de revenir sur la Renaissance italienne. Est-ce que ça a été l'objet de choix, de doutes, de sacrifices, pas ce dessin, même, ça sera pour une autre fois. Comment aujourd'hui on imagine ce genre d'exposition?
Mais d'abord, il y a un espace qui est quand même limité. Donc il faut, en fonction des cimaises dont on dispose, faire un choix autour de 30 à 40 dessins. Ensuite, je pars évidemment sur un corpus beaucoup plus large qui va se restreindre au fur et à mesure en fonction des recherches qui sont menées. Cette exposition, c'est une préparation.
Quels sont les critères qui décident, qui sont très forts finalement dans le choix des...
L'attribution.
L'attribution ?
L'attribution est fondamentale.
C'est-à-dire ?
Il faut, quand on commence ses recherches, il faut s'assurer que le dessin est bien de telle ou telle main. Donc on va mener des recherches avec beaucoup d'autres historiens, français, italiens, allemands, anglais, et on va aller jusqu'au bout de la recherche pour être sûr que le dessin est bien de tel ou tel artiste.
Vous voulez dire par là, Emmanuel Brugerolles, que vous avez des dessins, mais vous ne savez pas exactement si ça vient de tel ou tel maître, de telle ou telle période ?
Pas pour tous, mais pour beaucoup, oui, il faut revoir les attributions. C'est toujours l'occasion de retravailler sur l'attribution, sur les provenances, et puis pourquoi est fait un dessin ? c'est passionnant de réfléchir à la fonction de ces dessins. Pourquoi ils ont été faits? Dans quelle optique l'artiste l'a dessiné? Est-ce que c'est pour s'approprier un motif? Est-ce que c'est pour concevoir un projet? Voilà, toutes ces questions, on se les pose chaque fois qu'on voit un dessin.
Et on se pose d'autres questions, par exemple, ce dessin de Léonard de Vinci, on en a parlé en début d'émission, de ce vieil homme. Est-ce que Léonard de Vinci, est-ce qu'il a en face de lui un modèle ou pas?
Ça dépend. Ça dépend. Il peut travailler de mémoire et puis il peut avoir aussi, on le sait, il avait des modèles en bois et en cire et il disposait sur ces modèles des draperies et ensuite il dessinait. Donc il travaille de toutes sortes de manières. Mais le modèle vivant dans les ateliers au XVe siècle, bien sûr, sont très importants. Et notamment lorsque j'évoquais les dessins de Lippi, on sait très bien que parfois on n'a pas un modèle particulier sous la main. Donc c'est le garçonnet, c'est-à-dire l'assistant, qui va poser pour le maître. Et il va prendre donc un vêtement et puis il va se positionner suivant l'attitude que le maître lui demande et puis il va dessiner.
Alors, dans cette exposition de 30 dessins, on a affaire quand même à des gens connus, à des maîtres. Est-ce qu'il y a d'autres dessins de gens moins connus, ou pour ne pas dire totalement inconnus, que vous avez exposés en disant ça peut donner une idée aussi de ce que c'était les ateliers à cette époque?
Oui, vraiment. Le propos de l'exposition, c'est comment fonctionnent les ateliers à la fin du 15e et au 16e en Italie. Donc, c'est vrai que c'était vraiment l'axe que j'ai souhaité développer dans l'exposition. Donc, il y a des artistes qui vont peut-être pas beaucoup parler à vos auditeurs, comme Timoteo Viti, mais qui a joué un rôle très important, qui est contemporain de Raphaël.
Alors, pourquoi c'est très important pour vous, Emmanuel Brugerolles?
Parce que cela permet au public de voir toutes les facettes du dessin à cette époque, comme vous évoquiez l'étude d'après le modèle vivant, la draperie, le projet pour une composition. Il y a une variété d'approches qui permet de bien percevoir le sujet.
Vous avez cité un exemple.
Timoteo Viti, nous présentons trois dessins. Donc là, ils sont exécutés à la pierre noire. Et ce sont des dessins très intéressants parce que c'est un modèle, justement un modèle nu, qui pose dans l'atelier et l'artiste est en train de saisir l'attitude dans laquelle le modèle est en train de poser de manière statique, hein, il n'est pas en mouvement. Donc vraiment, l'artiste saisit cette attitude, essaye de bien rendre aussi les ombres et les lumières sur ce corps par ce travail de petits traits à la pierre noire extrêmement serrés. Et pour la lumière, il utilise ce qu'on appelle la réserve du papier, c'est-à-dire laisser le papier vierge.
Et puis, puisque c'est quand même une commémoration de la mort du maître, Léonard de Vinci, est-ce que cette exposition de dessins rappelle aussi le caractère, j'allais dire, primordial, central de Léonard de Vinci dans cette époque-là, à cette époque-là?
Je ne sais pas si notre exposition, c'est l'objectif essentiel. Je pense que l'exposition du Louvre sera plus importante de ce point de vue-là, puisque l'exposition du Louvre sera entièrement consacrée à Léonard et qu'on en verra toutes les facettes. Je pense que surtout, c'est l'occasion pour le public de découvrir que nous avons une très belle collection de dessins à l'École des Beaux-Arts.
Thank you. Et puis enfin, pour terminer, s'il fallait parler de ce que vous n'avez pas montré dans cette exposition, est-ce qu'il y a d'autres chefs-d'œuvre de cette période de la Renaissance italienne chez vous?
Oh ben, on a des dessins de l'école vénitienne absolument somptueux, de Tintoret, de Véronèse, de Titien, pour ne citer que cette école, mais nous avons aussi des dessins bolognais extraordinaires et de toutes époques. Et la collection de dessins français est extraordinaire aussi. Nous avons des œuvres de Poussin, de Lorrain. Et j'oubliais l'école allemande avec des œuvres de Dürer et de ses contemporains comme Baldungrin. Donc la collection est fabuleuse.
Et comment on les conserve?
Les dessins doivent être conservés dans le noir, à une certaine température, puisque en fait, si on les expose trop longtemps à la lumière, le papier jaunit. Si vous mettez une feuille de papier sur le rebord de votre fenêtre et que vous allez la voir quelques jours après, elle aura jauni. Donc nous devons être très respectueux pour la conservation des dessins.
Et vous les connaissez à peu près tous, ces 60 000 dessins de votre collection, Emmanuel Brugerol?
Comme je suis là depuis longtemps, je les connais bien, oui.
En dehors même de cette exposition autour de la Renaissance italienne et des quatre dessins de Léonard de Vinci?
Oui, bien sûr que j'ai des préférences sur certains dessins, bien sûr. On a des chefs-d'œuvre, hein. On a des chefs-d'œuvre de Dürer, on a des chefs-d'œuvre d'artistes maniéristes comme Pontormo, on a des œuvres de Géricault, La traite des nègres, qui est un dessin absolument fabuleux, qui n'a pas donné lieu à un tableau, donc c'est seulement par le dessin qu'on conserve une idée de ce projet ambitieux qu'avait Géricault. On a des nus d'Ingres qui sont aussi de toute beauté. Et puis, nous tentons aujourd'hui d'enrichir nos collections par des œuvres contemporaines, c'est-à-dire de professeurs et de jeunes artistes qui sont passés par l'école pour garder une trace des mouvements artistiques de l'école. C'est très important parce que après mai 68, les concours s'arrêtent. Hein. La revendication première des étudiants, c'est de supprimer le prix de Rome. Donc, c'est vrai que c'était sans doute plus adapté par rapport à ce qui se passait à l'époque dans Paris. Mais pour un conservateur, c'est la fin de l'enrichissement de ses collections, puisque par les concours, on s'enrichissait énormément. Donc, j'essaye depuis quelques années de combler ces lacunes en demandant aux professeurs, qui sont plutôt généreux, soit de donner des œuvres ou de les acquérir, et aux jeunes artistes de leur demander aussi de laisser une trace de leur passage.
Mais des jeunes artistes qui seraient passés par l'école des Beaux-Arts.
Oui.
Connaissent-ils pour les autres dessinateurs, ceux qui sont autodidactes ou qui ont fait d'autres formations, enfin qui ne sont pas passés par l'école des Beaux-Arts, pour aller vite?
Je dirais que nous, on s'inscrit dans notre histoire. C'est très important. Déjà, ça fait beaucoup. Donc, je veux dire que depuis quelques années, maintenant, on a une jolie collection de dessins contemporains.
Est-ce que ces dessins voyagent dans le monde? Est-ce qu'on vous les demande? Est-ce que c'est tout aussi délicat que de pouvoir laisser un dessin participer à une exposition à l'autre bout du monde?
Alors, nous prêtons énormément. Ouais. Donc, vous avez en ce moment des tas de dessins de l'École des Beaux-Arts qui sont présentés dans les plus grands musée du monde, au Metropolitan, à l'Afrique Collection, au musée du Louvre, nous prêtons évidemment beaucoup, au musée d'Orsay aussi beaucoup.
Comme si c'était des œuvres d'art, comme si c'était des toiles, c'est-à-dire avec tout le protocole d'assurance.
Le protocole, bien sûr, ouais. Et de convoiement. Ça, c'est capital. Donc l'œuvre est suivie de manière très très précise, à l'aller comme au retour.
Plus que jamais, il faut faire un tour si vous êtes à Paris ou si vous êtes de passage à Paris pour aller voir cette exposition Léonard de Vinci et la Renaissance italienne. C'est jusqu'au 19 avril au cabinet des dessins. Jean Bonnat, merci beaucoup. Emmanuel Brugerol d'être passé ce matin à nous en parler.
Sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Découvrez Emmanuel Lévinas, l'homme qui a refondé la philosophie au lendemain de la Shoah, dans la semaine spéciale Les chemins de la philosophie d'Adèle Van Rett, cette semaine sur France Culture à 10h. en partenariat avec le hors-série Emmanuel Lévinas de Philosophie Magazine, en kiosque actuellement. Place de la République, saison 2, Sonia Kronlund.
Place de la République, c'est la façon dont la République fonctionne ou pas dans trois institutions, trois services publics emblématiques. Place de la République, saison 2, c'est dans un commissariat à Auxerre, un hôpital à Amiens et une mairie à Marseille.
J'habite tout seul dans un appartement. Là, je suis hospitalisée, j'ai personne, je suis dans la misère.
Place de la République, chaque mercredi dans Les Pieds sur Terre à 13h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un grand plan pour les petites associations, pas de droit de vote pour les étrangers. Voici quelques pistes évoquées par Emmanuel Macron hier face aux élus d'Île-de-France. Il a poussé le grand débat national vers la banlieue, nous y reviendrons. Vous entendrez ensuite pourquoi la CGT et les Gilets jaunes peuvent faire converger leur lutte. Journée d'action, journée de grève ce mardi. Mediapart refuse une perquisition de ses locaux. Il s'agit d'une enquête ouverte dans le cadre de l'affaire Benalla. La liberté de la presse est en jeu, vous le comprendrez. Et puis, vous entendrez des catholiques qui habitent à Abu Dhabi. Le pape François y poursuit sa visite aujourd'hui. 6 heures d'échange au total, cela deviendrait presque une habitude. Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux élus et aux représentants associatifs de villes et de quartiers populaires en Île-de-France. 150 personnes environ étaient présentes. Elles étaient réunies dans l'Essonne à Évry-Courcouronnes dans le cadre du grand débat national. Une soirée sous forme de deuxième chance, pourrait-on dire, pour le président. Et ce, après le rejet du rapport Borloo auquel bon nombre de maires de banlieue avaient contribué il y a moins d'un an. Des discussions, donc, parfois assez technique, et certains invités n'ont pas caché hier leur scepticisme vis-à-vis de la démarche d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'a constaté Claire Chaudière.
Silence, un peu glacial à vrai dire, à l'arrivée du président, et d'entrée de jeu, les doutes sont exprimés.
Je vous ai écrit, monsieur le président, pas de réponse. Vous voyez, c'est le mot de confiance qui est posé à un moment donné.
On m'a demandé de participer à ce débat, j'ai hésité.
Nous sommes des villes assoiffées d'égalité.
La question récurrente de l'inégalité d'accès aux droits communs, éducation, police, justice, pourquoi pas une cour d'équité territoriale, suggèrent les maires. Emmanuel Macron se dit opposé au droit de vote des étrangers. Trop nombreux sont d'ailleurs les citoyens qui ne s'en servent pas, dit-il. Il parle d'un grand plan pour les petites associations et avec une pointe d'humour de la nécessité d'un autre regard sur la banlieue.
Des infrastructures culturelles, deux aéroports internationaux. C'est la Seine-Saint-Denis. On regarderait de l'autre bout du monde ce truc, c'est San Francisco. Il manque que la mer par rapport à la Californie.
Thérèse, venue d'Aulnay-sous-Bois, est ravie.
À chaque fois qu'on lui pose des questions, il répond, il écoute. Mais il est sincère.
Les signataires de l'appel de Grigny à l'origine du rapport Borloo repartent un peu perplexes. Pas de nouvel élan, mais des intentions. Abdel, membre d'un conseil citoyen, est lui clairement déçu.
On tourne un peu en rond. On rabâche le même discours, la même chose. Ça fait déjà des années qu'on attend ce discours-là.
Mais au-delà des quartiers populaires, c'est peut-être ce grand débat dans son ensemble, lâche un responsable associatif qui commence un peu à tourner en rond.
Encore juste deux petites phrases.
Il faut conclure. Merci beaucoup.
C'était un reportage de Claire Chaudière. Notons qu'hier soir aussi, à Béziers, ville du maire d'extrême droite Robert Ménard, un débat était organisé. La question du pouvoir d'achat y a supplanté l'immigration. Et pendant que les citoyens et certains élus débattent, les députés, eux, discutent de la proposition de loi dite anti-casseurs, du texte sur la prévention des violences lors des manifestations et la sanction de leurs auteurs. Il sera soumis cet après-midi au vote solennel des députés en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais il provoque encore des dissensions au sein de la majorité, Laurent Sénéchal.
Personne ne veut parler de fronde, mais il y a bien un réel malaise au sein de La République En Marche. Mathieu Orphelin dénonce l'interdiction administrative de manifester. Elle pourrait être mal utilisée, selon lui, par un futur régime d'extrême droite, par exemple. Il compte s'abstenir, tout comme Aurélien Taché. Le chiracien Hugues Ranson, vice-président de l'Assemblée, veut encore réfléchir. On touche à une liberté publique essentielle, rappelle-t-il, même s'il salue l'interdiction de dissimuler son visage ou le principe du casseur-payeur. Les députés de la majorité ont été 15 à s'abstenir ou s'opposer à la loi Asile-Immigration. Il pourrait être cette fois-ci une vingtaine. Malgré tout, la loi devrait être votée à l'Assemblée. L'une des têtes du groupe La République En Marche juge que le texte initial du très droitier Bruno Retailleau a été réécrit de manière innovante. Elle accuse ses collègues abstentionnistes de conduire une bataille d'existence politique. La liberté de vote accordée par Stanislas Guérini, le patron du parti, l'a fait soupirer. Ça va être le bazar, résume-t-elle.
Et voici la réponse du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur sa page Facebook hier soir. Ce texte, écrit-il, n'est pas liberticide. Au contraire, il assure la sauvegarde des libertés individuelles et affirme la liberté de manifester. Fin de citation. Certains donc manifestent pour dénoncer le grand débat national que nous évoquions en début de journal. D'autres manifestent contre les violences policières en filigrane derrière la proposition de loi anti-casseurs. D'autres encore veulent aujourd'hui dénoncer l'injustice sociale et fiscale. La CGT avait lancé le mouvement, le syndicat est rejoint par Sud, par Solidaire, mais aussi par certains Gilets jaunes, ainsi que des partis politiques comme le parti de gauche, le NPA, la France Insoumise. Et c'est assez logique pour Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque, l'organisation altermondialiste. Elle s'en explique.
C'est la première fois d'abord que les Gilets jaunes appellent à rejoindre une grève interprofessionnelle annoncée par les syndicats. Et en fait, ça fait suite à des convergences qui s'étaient produites depuis le début du mouvement, avec le mouvement climat, avec le mouvement des lycéens, avec le mouvement des quartiers, je pense au collectif Adama. Et donc là, il s'agit d'avoir une étape supplémentaire dans ce rassemblement des forces pour la justice sociale, fiscale, environnementale, et de montrer notre souhait de soutenir sur ces revendications-là, le mouvement des Gilets jaunes, c'est surtout sur des valeurs de fond, ce souhait qu'il y ait une toute autre répartition des richesses. Quand le mouvement des Gilets jaunes demande une augmentation des salaires, une restauration de services publics de qualité, de proximité, ça rejoint en fait ce que porte le mouvement syndical, associatif, progressiste, ce qu'on porte depuis longtemps, et cette répartition des richesses. Parce que au fond, si on veut augmenter les salaires, ça veut dire aussi qu'il faut faire en sorte que les bénéfices des entreprises aillent vers les salaires, vers l'investissement, et non plus vers les actionnaires et leurs dividendes. Nous, on le dénonce, mais on voit bien surtout que c'est au fond les revendications des Gilets jaunes qui n'en peuvent plus. Mais je crois que la journée peut justement permettre cette connexion-là, pas seulement entre mouvements, mais surtout entre revendications.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. Elle était déjà tentaculaire. L'affaire Benalla connaît un nouveau front. Le parquet de Paris a tenté hier de perquisitionner Mediapart. Après la diffusion la semaine passée d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase, cette nouvelle enquête a été ouverte pour atteinte à l'intimité de la vie privée, notamment. Le site d'information Mediapart hier a refusé la perquisition et s'est empressé de dénoncer une volonté d'atteinte au secret des sources. Même inquiétude pour Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières.
C'est une affaire qui est non seulement stupéfiante, mais qui est franchement inquiétante. Le journalisme d'investigation, il est en danger, parce qu'il subit des attaques multiples, et notamment sur le plan judiciaire, parce qu'il y a des procédures bâillons de la part de personnes qui sont l'objet d'enquêtes et qui font en sorte, en instrumentalisant les procédures judiciaires, d'empêcher les journalistes de révéler les choses, ou qui font en sorte de les intimider. Et là, de manière extrêmement claire, on est non pas de la part du procureur dans l'intention de protéger la vie privée de M. Benalla, on est, de manière évidente, dans une tentative d'atteinte au secret des sources. Est-ce que la protection de la vie privée de M. Benalla, est-ce qu'elle relève d'un impératif prépondérant d'intérêt public ? À l'évidence, non. Ça signe l'intention du procureur. Aujourd'hui, le parquet met en danger le journalisme d'investigation en procédant à telles actions, parce que si dans un pays, le secret des sources n'est pas garanti, s'il apparaît qu'il est fragilisé par des actions comme celle-là, alors des sources peuvent se montrer réticentes à parler. Et qu'est-ce qu'un pays dans lequel le secret des sources des journalistes n'est pas garanti ? Ça n'est pas un pays où les journalistes ont un privilège en moins. C'est un pays où les citoyens sont privés de leurs droits à avoir accès à une information qui n'est pas seulement une information officielle.
Christophe Deloire de RSF au micro de Rosalie Lafarge. Un incendie s'est déclaré cette nuit à Paris dans le 16e arrondissement. Incendie meurtrier. 7 personnes sont mortes. 30 ont été blessées, dont une grièvement. Le feu, à l'instant même, est maîtrisé par les pompiers. La situation est toujours tendue au Venezuela. L'opposant Juan Guaido est désormais reconnu comme président par intérim par 19 pays européens, reconnu aussi toujours par les États-Unis. Le Canada et 11 pays latino-américains demandent eux à l'armée vénézuélienne de se ranger derrière l'opposant. Il prépare une messe d'ampleur et inédite. Le pape François termine sa visite historique aux Émirats Arabes Unis ce mardi. Hier déjà, devant un parterre multiconfessionnel, il apprenait la liberté religieuse. Il a condamné la violence perpétuée au nom de la religion, et ce devant les oreilles attentives de milliers de fidèles, Mathilde Imberti.
Un million de catholiques résident aux Émirats, des émigrés essentiellement qui travaillent sur cette riche terre pétrolière. Ici, confirme Aïza, une jeune femme philippine, la liberté de culte est réelle.
C'est un pays musulman, mais nous avons nos églises. On a de la chance. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Jusqu'ici, tout va bien.
La liberté de culte est une chose, la liberté religieuse en est une autre, a pourtant souligné le pape François hier soir. Le regard tourné vers l'ensemble de la péninsule arabique, Arabie Saoudite comprise.
La liberté religieuse voit dans l'autre un véritable frère. Un frère qu'aucune institution humaine ne peut forcer, même en son nom.
L'évêque chargé pour l'église catholique de l'Arabie Saoudite, Mgr Camillo Baline, suit le pape tout en confiance et doute.
Liberté religieuse complète, je ne la vois pas. Parce que cela veut dire que chaque musulman, par exemple, est libre de changer de sa religion. Ça, ce n'est pas possible. Enfin, il y a liberté de culte. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le berceau de l'islam. Alors le fait d'admettre des églises, c'est déjà beaucoup.
Les catholiques invités exceptionnellement aujourd'hui à une messe en plein air. Ils sont plus de 100 000 fidèles rassemblés ce matin au grand stade de la ville.
Mathilde Imberti, envoyée spéciale de France Culture à Abu Dhabi. Le pays est coupé en deux par Météo France ce mardi. À l'est, il y aura de grandes éclaircies. À l'ouest, de la grisaille et des pluies, comptez moins 2 à Chambéry ce matin, 3 degrés à Paris, 9 à Bordeaux, 10 à Perpignan. Il est 6h40, bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous rejoignez pour votre journal des idées. Et cela ne vous a pas échappé, Jacques, la perspective du no deal, c'est-à-dire un départ de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne sans accord, cette perspective, semble se profiler.
Et c'est la pierre d'achoppement de la frontière entre les deux Irlandes, vous le savez Clara, qui s'avère in fine le nœud du problème, à moins de 2 mois du Brexit et après 17 longs mois de négociations, comme le rappelle Cécile Ducourtieu dans Le Monde. Pour éviter le retour d'une démarcation physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, Michel Barnier avait proposé le backstop ou filet de sécurité, une clause temporaire pour maintenir cette frontière ouverte aux biens et aux personnes. L'Irlande du Nord resterait alignée sur les normes européennes, sanitaires, réglementaires, fiscales, etc. Les contrôles de marchandises s'effectuant entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Mais c'est là où le bât blesse, le backstop. Stop reviendrait à unifier l'île d'Irlande en la marrant à l'Union européenne. Les 10 députés nord-irlandais du parti unioniste ne veulent pas en entendre parler. Or, Theresa May a besoin d'eux pour conserver sa majorité à la Chambre des communes. Politiquement, la situation pourrait profiter aux travaillistes qui réclament la tenue d'élections générales plutôt qu'un nouveau référendum sur le Brexit. C'est du moins la position de Jeremy Corbyn, car les projets relancés par le Labour depuis qu'il en a pris les rênes en 2015, s'accommode mal des règles budgétaires européennes, renationaliser les services publics délabrés après leur privatisation, réhabiliter l'investissement public, notamment dans le secteur industriel créateur d'emplois, encadrer la finance. Dans le monde diplomatique, Chris Bickerton souligne le paradoxe. La plupart des nouveaux militants d'un parti qui s'est hissé au rang de plus grande formation européenne en nombre d'adhérents est favorable à l'Europe. Le politologue de Cambridge évoque la voie étroite d'un Brexit de gauche. Quitte à entretenir l'ambiguïté, le parti travailliste, une fois au pouvoir, envisage de négocier un accord pour une union douanière qui obligerait le Royaume-Uni à respecter les règles fixées par l'Union européenne sans pour autant renoncer à son programme politique. Sortir des traités européens pourrait par ailleurs permettre de repenser le modèle de croissance britannique, ajoute Chris Bickerton. Aujourd'hui, dans un contexte où la faible productivité tire les salaires vers le bas, son financement dépend en grande partie du boom de l'immobilier, un secteur spéculatif et pas seulement locatif. Le Brexit, observe-t-il, a déjà commencé à transformer le marché du travail britannique. Dans le secteur du bâtiment, par exemple, où le pourcentage de travailleurs venus d'États membres de l'Union est particulièrement élevé, les salaires se mettent à augmenter dans la perspective d'un tarissement du flux de main-d'œuvre à bon marché. Pour Jeremy Corbyn, Caroline. Le débat sur le Brexit dénature les priorités des Britanniques, qui souhaiteraient moins pouvoir répondre à la question pour ou contre l'Europe qu'à une autre question pour ou contre les politiques menées depuis l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979. L'opposition entre les pour et les contre l'Europe mise en scène médiatiquement doit être dépassée, selon Jean-Marc Ferry, au profit d'une réflexion de fond sur la crise technique de la gouvernance par les règles, ainsi que sur la crise éthique de solidarité et de co-responsabilité politique des États membres. Le philosophe, spécialiste et traducteur de Habermas, dresse dans la revue Études le bilan d'une Europe problématique pour dégager l'horizon d'une union où les souverainetés nationales pourraient s'organiser en vertu d'un principe de co-responsabilité solidaire autorisant une coordination macroéconomique. Pour lui, l'erreur est d'avoir instauré une monnaie unique dans une zone à la fois économiquement hétérogène et juridiquement décloisonnée, sans prévoir en même temps des dispositifs de compensation, car les règles budgétaires imposées par Bruxelles amènent les États, le nôtre en particulier, à résorber le déficit des finances publiques en réduisant les dépenses, notamment sociales, et en accentuant la pression des prélèvements obligatoires. D'où une stagnation du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires qui nuit à l'activité. On ne peut pas modifier le fait que l'euro soit sous-évalué pour l'Allemagne et surévalué pour l'Italie, résume Jean-Marc Ferry. Aussi, l'ajustement que l'on préconise ne se fait-il plus par les monnaies, mais par les pouvoirs d'achat. C'est ce que, par euphémisme, on nomme la dévaluation interne et qu'on impose sous l'appellation trompeuse de réforme structurelle. Cette tendance générale à une privatisation de la monnaie et de la politique elle-même n'est pas seulement antisociale et anti-économique, elle est aussi anti-politique et elle contribue grandement à conforter le clivage sur la question européenne et à nourrir un combat de posture promis à l'enlisement des guerres de position. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la suspension conjointe par les Américains et les Russes du traité sur les missiles nucléaires de portée intermédiaire.
Voilà, une nouvelle crise diplomatique entre Washington et Moscou après le double retrait du traité de limitation des missiles de moyenne portée INF ce week-end. Donald Trump accusait le Kremlin de violer le traité, Moscou réfute et réplique. Alors après l'époque des grands traités pour réguler la menace nucléaire, serait-ce celle de la défiance ? Bonjour Isabelle Facon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue. Vous êtes directrice adjointe de la Fondation pour la Recherche Stratégique Spécialiste de la Russie. Vous avez participé à la synthèse de la FRS sur, je cite, la mort annoncée du traité FNI ou la fin de l'après-guerre froide. Ce traité de 87 entre États-Unis et URSS interdit l'usage des missiles sol-sol de portée 5500 km. Ça fait quelques mois que l'administration Trump accuse la Russie de développer en secret un nouveau missile. La Russie n'y est, mais plus étonnant peut-être, c'est cette réponse du tac au tac ce week-end, ce retrait russe, assez étonnant quand même, non ?
Alors, c'est pas vraiment une surprise, puisque je crois que, de toute façon, les Russes avaient déjà préparé leur future réponse. Ils faisaient guère de doute que cette annonce serait, l'annonce de Trump serait validée. Et donc, effectivement, il y a plusieurs choses dans ce que les Russes ont dit pour qualifier leur réponse asymétrique. D'abord, évidemment, le président Poutine a rappelé la responsabilité des Américains dans cette affaire, souligné un certain nombre de violations dont les États-Unis eux-mêmes se rendraient coupables. Tout ça, on pourrait en discuter. Il a dit aussi voyons ce que l'on peut développer puisqu'il a parlé de réponse symétrique. Donc le ministre de la Défense a parlé d'une version terrestre du missile calibre longue portée dont on a beaucoup entendu parler en Syrie ces derniers temps et l'idée de développer un nouveau missile courte portée. Et ce que les Russes ont dit également, c'est s'il n'y a pas de déploiement américain, il n'y aura pas non plus de déploiement russe, ce qui se veut sous certainement une marque de bonne volonté. Mais bon, tout ça est très politique. Et je crois que ce que veut vraiment le clou que veut enfoncer la Russie, c'est les États-Unis sont responsables de la fin de ce traité. Et c'est pas la première fois que les États-Unis mettent en cause des pièces maîtresses de l'architecture de stabilité stratégique.
Donc Donald Trump, lui, a dit qu'il laissait encore 6 mois quand même à Moscou pour pouvoir négocier jusqu'à début juillet. Donc Vladimir Poutine indique, lui, qu'il attend que les États-Unis, et je cite, suffisamment mûri pour avoir un dialogue d'égal à égal. C'est sa manière de s'exprimer, mais qu'est-ce que ça signifie?
Alors, de toute façon, ce qu'a dit aussi Vladimir Poutine, du coup, votre question permet de rappeler aussi ce point, c'est qu'il a dit « Je demande au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères de ne pas solliciter de nouvelles négociations avec les États-Unis sur le désarmement nucléaire. » Alors, après, le discours sur des relations d'égal à égal, c'est un discours qui est devenu très classique depuis 2007, le discours de Vladimir Poutine à Munich, si vous vous souvenez. C'est les États-Unis, dans le monde, imposent leur volonté. Ils ont voulu se retirer du traité ABM en 2002. Ils ne respectent pas l'accord sur le nucléaire trouvé par la communauté internationale, etc., etc. Et ce que veut dire Vladimir Poutine avec son éternelle expression d'égal à égal, c'est voilà, la Russie est une puissance nucléaire sur un pied d'égalité avec les États-Unis, et donc il faut que les États-Unis s'adressent à elle sur ce volet-là. Et la théorie des Russes, c'est que de toute façon, les États-Unis ne veulent pas de ce rapport d'égal à égal.
Et alors, vu la rapidité, on va dire, avec laquelle les deux chefs d'État se sont montrés prêts à abandonner ce traité, traité historique, on pourrait en rappeler l'importance, est-ce qu'il a encore une valeur aujourd'hui, outre son existence purement juridique, on pourrait dire?
Alors, je reviendrai sur la rapidité, parce qu'en fait, c'est pas si rapide que ça, dans le sens où, en fait, c'est l'administration Obama qui, la première, avait commencé à mettre le doigt sur ce qui semble bien être une violation par la Russie du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, avec le développement d'un missile qui serait en contravention de ce traité. Et visiblement, les Européens qui ont mis plus de temps, qui ont voulu vérifier, semblent valider ce point. Donc, en soi, on peut pas parler de rapidité, parce que, en fait, depuis un certain temps, déjà, ce débat fait polémique entre les Russes et les Américains. Et d'après ce que l'on en sait, il est probable que les Russes aient commencé à développer ce missile incriminé en 2002 ou 2003, ce qui pourrait aussi provenir, pas forcément directement, mais pour être finalement une réponse à ce qu'ils ont très mal vécu, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le retrait des États-Unis du traité ABM. Pour les Russes, c'était vraiment un tournant.
Le traité sur la défense antimissile, cette fois.
Tout à fait. Ouais. Et je ne fais pas de lien, évidemment, entre les sujets des deux traités, mais il est possible que ça ait contribué à ce que les Russes se sentent une certaine liberté dans le développement d'un certain nombre de systèmes théoriquement interdits par les traités. Et donc ça, je pense que c'est un élément. Un autre élément, c'est le fait que l'industrie d'armement a quand même une certaine force de persuasion dans le débat en Russie. Vladimir Poutine considère l'industrie d'armement comme un peu le fleuron de l'industrie russe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui s'exportent à part l'armement sur les marchés internationaux. Et donc, il est possible que par inertie, par habitude aussi, puisque les Russes traditionnellement développent des systèmes, ils ont un réflexe d'exhaustivité dans leurs options militaires. Voilà. Et puis, peut-être ce volet de bras de fer avec les États-Unis. Ils se retirent d'un traité et ça donne le sentiment d'une plus grande liberté dans ses propres marges de manœuvre stratégiques.
Oui, et de la même manière, c'est ce qu'a reproché Moscou aux États-Unis, de se dégager de ses obligations, en fait. De ce point de vue-là, qui est-ce qui a la plus grande marge de manœuvre aujourd'hui? C'est très difficile à estimer, j'imagine.
Moi, je pense que, bon, les Russes jouent ce jeu, comme je vous l'ai dit, d'essayer de faire porter le gros de la responsabilité aux États-Unis, alors qu'à la base, ils ont violé, ils ont visiblement violé le traité. Mais c'est un jeu de dupes, et je pense que, de toute façon, aujourd'hui, ce traité, effectivement, est mort. Et ça rappelle, d'ailleurs, que il y a une forme d'asymétrie dans ce traité, c'est-à-dire qu'il engageait les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui ont des missiles qui rentrent dans la catégorie des missiles prohibés par ce traité. Plusieurs solutions ont été envisagées par Russes et Américains. Multilatéraliser le traité, par exemple la Chine, mais la Chine a déjà fait savoir
que... Vladimir Poutine l'avait proposé, c'est
ça ? L'avait proposé, ça avait été discuté avec les Américains. Une autre option qui avait été envisagée, c'était le retrait en commun, enfin conjoint de ces deux pays du traité en question, pour justement limiter la casse politique. Mais aujourd'hui, évidemment, comme vous le savez, le contexte politique de la relation russo-américaine est bien dégradé, et donc on n'essaye même plus de sauver les meubles.
Alors il y a ce contexte, il y a les jeux de levier, on pourrait dire, politiques, et quand même j'aurais dû en parler au début, mais sur quoi est-ce que se fondent les accusations des États-Unis, ce fameux missile 9M729 ou SSC-8, est-ce que c'est sur lui que porte essentiellement le litige? Est-ce qu'il a une capacité capacité effectivement nucléaire et telle qu'interdite par le traité.
Alors l'idée, il s'agit d'un missile qui aurait une capacité double, c'est-à-dire qui peut être utilisé en mode conventionnel ou en mode nucléaire, qui n'a pas été testé dans les portées qui sont incriminées dans l'accusation américaine, ce qui permet aux Russes de dire qu'il n'y a pas de preuve en fait de ça. Et d'après le service de renseignement américain, un certain nombre de ces nouveaux systèmes seraient déjà déployés de l'autre côté de l'Oural, d'une part, et du côté de la mer Caspienne. Donc il faudra voir ce que ça donne dans les prochains temps, sachant que pour l'instant, l'OTAN et plusieurs pays européens ont déjà dit que ils partageaient l'analyse américaine sur les violations par la Russie du traité.
Pleinement d'accord, c'est ce qu'ils ont dit. Ce qui veut dire aussi par ailleurs que ce canal allemand dont on a beaucoup parlé, une entremise par Heikomas, le ministre des Affaires étrangères, ne fonctionne plus.
Le canal russo-européen, vous voulez dire
russo-européen, via l'Allemagne, pardon.
Via l'Allemagne. Ce canal russo-européen, que ce soit via l'Allemagne ou via la France, il est compliqué en ce moment et peut-être plus... Alors, il y a le contexte général, les comportements de la Russie en Ukraine, etc. Donc, les sanctions, donc tout ça est un contexte difficile. Et il y a aussi la difficulté, côté européen, d'avoir une action autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Européens semblent assez tiraillés. Et d'un côté, ils voient bien que Trump, c'est pas qu'un épiphénomène, qu'il y a des choses qui bougent dans la relation transatlantique et que finalement, Trump est peut-être plus un symptôme que la cause de tout cela. Et il me semble que pour l'instant, la réaction des Européens est plutôt d'être assez tétanisée par rapport à tout ce que tout ça peut signifier. Donc, bien sûr, ils vont essayer de faire un apport. Mais aujourd'hui, parler de remettre l'arms control, la maîtrise des armements sur les rails dans le contexte dégradé des relations d'une part russo-américaine, Russie-OTAN, Russie-Union européenne, ça me paraît être un objectif assez vague et donc je ne suis pas du tout certaine que ça puisse évoluer rapidement.
Et toute dernière chose, vous l'avez suggéré, mais si ce traité est mort aujourd'hui, mort déclaré, est-ce que ce n'est pas pour des raisons extérieures à la relation russo-américaine? Il en est question dans la note de la FRS, notamment l'inquiétude de la Russie pour ses marges orientales et extrême-orientales.
Alors déjà, du côté américain, visiblement, la carte également asiatique joue un rôle, peut-être même le rôle principal dans cette affaire. Côté russe, effectivement, il y a toujours la relation avec la Chine, même si elle s'est très considérablement améliorée. Il y a également le voisinage avec l'Iran. On sait bien que pour l'instant, ils sont plutôt sur la même longueur d'onde, à quelques nuances près tout de même, sur la Syrie. Mais voilà, vous êtes la Russie, puissance continentale, qui a toujours eu ce complexe d'encerclement. C'est pas confortable pour l'état-major russe de savoir qu'il y a des pays voisins qui disposent de systèmes dont vous ne disposez pas. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement le principal facteur de l'évolution dont on vient de parler aujourd'hui. Encore une fois, il y a beaucoup aussi d'inertie, le poids de l'industrie d'armement, etc. Tout ça joue. Mais tous ces éléments mis ensemble, finalement, produisent le résultat d'aujourd'hui. Mais comme vous le dites, côté américain également, c'est pas forcément la carte russe qui est si prioritaire que ça dans la discussion, même si on n'a pas tellement envie, côté américain aujourd'hui, de faire plaisir aux Russes de quelque manière que ce soit.
Eh bien voilà, fin d'une époque et peut-être début d'une autre. Merci beaucoup Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente The End of Reality de Richard Maxwell, mise en scène par Marie-Josée Malice. Le quartier a changé, les buildings poussent et on a peur d'un peu tout. Des employés d'une agence de sécurité font entendre leurs aspirations et des questions de la foi dans une Amérique en proie à l'injustice. Dans cette pièce, l'auteur donne la parole au laissé pour compte et fait surgir la nouvelle beauté du monde. The End of Reality, du 6 au 22 février à La Commune, Centre Dramatique National à Aubervilliers. Un partenariat France Culture.
Et à 6h57 sur France Culture, la nouvelle beauté du monde surgit aussi avec Les Matins et Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Oh, Xavier Martinet, bonjour et bonjour à tous.
Et avec cette question qui revient, les Gilets jaunes devraient-ils avoir des revendications culturelles?
Eh bien, si l'on en croit le sociologue Pierre Bourdieu, la réponse est oui, évidemment. Et cependant, la culture est aujourd'hui quasi absente des revendications des Gilets jaunes, comme l'ont noté par exemple le metteur en scène Stanislas Nordet ou le journaliste du Monde Michel Guérin. Pas de revendications culturelles sur les manifs, alors même que les inégalités, si l'on en croit à Bourdieu, sont de deux types, inégalités sociales mais aussi inégalités culturelles, les secondes se situant dans le prolongement des premières. C'est que pour l'auteur des héritiers ou de la reproduction, l'école transforme de la reproduction sociale en sélection légitime, comme l'écrit Bourdieu, pour que soient favorisés les plus favorisés et défavorisés les plus défavorisés. Il faut et il suffit que l'école ignore dans le contenu de l'enseignement transmis, dans les méthodes et les techniques de transmission et dans les critères de jugement, les inégalités culturelles entre les enfants des différentes classes sociales. Et c'est ainsi que pour Bourdieu, l'école sélectionne bien plus un savoir-être qu'un savoir-faire, le premier étant infiniment plus complexe à apprendre que le second, tout simplement parce que les bonnes manières, je mets ça avec tous les guillemets qui convient, les bonnes manières pour réussir dans le monde peuvent éventuellement s'apprendre, mais en tout cas pas s'enseigner. Alors bien entendu, on comprend pourquoi la culture n'est pas au centre des revendications, il y a des urgences, comme le disaient les révolutionnaires russes, une paire de bottes est plus utile que l'œuvre de Shakespeare. Mais c'est aussi parce que les inégalités sociales semblent pouvoir être régulées plus simplement que les inégalités culturelles. Difficile de taxer la lecture de Shakespeare. Dommage, on pourrait protéger plus encore les services publics culturels, et je ne plaide pas seulement en faveur de ma paroisse laïque, France Culture. Et cependant, s'il y a une certitude, plus encore un consensus parmi tous les sociologues de toutes les paroisses, c'est que le rapport à la culture est ce qui détermine pour une part essentielle la réussite des individus. La culture, c'est aussi et d'abord cela qui émancipe. Voilà pourquoi, au moment du grand débat, eh bien, il ne faudrait pas se tromper d'amis.